Oui, ce soir, je vais apporter un peu de saint Thomas, parce qu'on ne lit pas souvent, n'est-ce pas? Alors, comme c'est sa fête, on va lire un saint Thomas, si vous voulez bien, n'est-ce pas? C'est vrai, et on me l'a demandé, d'essayer d'expliquer de temps en temps, à l'occasion des fêtes, pourquoi nous avons quelques saints que nous aimons particulièrement. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, vous êtes dominicain, donc saint Thomas. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça en premier lieu. En premier lieu, si de fait nous aimons saint Thomas et que nous voulons prendre saint Thomas comme orientation pour nos études, c'est par fidélité à l'Église. Il y en a tellement peu aujourd'hui qui écoutent cette fidélité de l'Église. Que je crois que nous devons être le petit reste qui l'écoute. Parce que c'est vrai, il y en a tellement peu. Je ne veux pas dire ici, à droite ou à gauche, faire des critiques. Saint Thomas n'aimerait pas ça. Ce n'est pas cette question-là. Mais vous n'avez qu'à vous le rappeler et vous le verrez progressivement. Combien il y en a peu qui ont entendu combien l'Église, depuis la mort de saint Thomas, n'a cessé de redire tout le temps « docteur commun » et recommander que saint Thomas soit celui auquel nous revenions normalement. Vous voyez, ça devrait être cela notre attitude de théologien. Je dis bien de théologien, il y a des orientations différentes. Nous revenons normalement à saint Jean. Je crois que tous ceux qui font partie de la communauté saint Jean doivent avoir dans leur cœur ce poids qui vient de l'Esprit Saint, cet amour qui vient de l'Esprit Saint, qui font que normalement ils reviennent toujours à saint Jean. L'Apocalypse, premier épître, l'Évangile. On y revient tout le temps. Et on ne peut pas se lasser de vivre de saint Jean, si on est de la communauté saint Jean, pour que ça jaillisse de notre cœur spontanément et comme ce qui pour nous est le plus vital. Et je crois qu'au point de vue théologique et notre formation théologique, il faut que nous ayons un poids moindre, hein, le poids du théologien, dans la pesée, doit être moindre que le poids qui nous conduit directement et immédiatement à saint Jean. Forcément, puisque le théologien, c'est quand même second, c'est par rapport aux croyants. Mais pour un futur prêcheur, un futur prédicateur, ou un curé de paroisse, ou celui qui enseigne d'une manière ou d'une autre, celui qui fait la catéchèse, catéchèse moderne selon saint Thomas. Vous voyez, ça ne serait pas si mal, hein, comme titre, hein, catéchèse moderne, catéchèse parfaitement adaptée aux jeunes selon saint Thomas. Alors, on devrait avoir cela comme, je dirais, instinctivement, puisque l'Église nous le demande. L'Église nous demande de nous former. Or, saint Thomas, on ne pourra le communiquer aux autres que si on est rompu avec lui. Hein. Parce que vraiment, vous savez, quand vous prenez en chair un article de saint Thomas, hein, ça fait fuir tout le monde. Hein. Pas la peine de faire l'expérience, du reste. Mais même en une conférence, quand vous essayez de faire passer du saint Thomas, on peut le faire ici parce qu'on a un milieu très sélect. N'est-ce pas ? Alors on peut le faire. Mais en dehors d'ici, non, on ne peut pas. C'est impossible. Oui, à Bethléem, c'est un autre milieu sélect. Mais alors on peut le faire aussi, parce que Bethléem désire cela pour former profondément, au point de vue purification de l'intelligence. Saint Thomas purifie l'intelligence. C'est la grande... C'est ça, saint Thomas, purificateur de l'intelligence. Vous voyez, ça devrait être un peu ce que saint Thomas nous apporte. Il nous apporte ce fait que il nous dépouille d'une quantité de choses secondaires et nous apprend à aller l'essentiel. Il ne faut pas croire que si en passant, en allant à Saint-Thomas, on n'aura plus d'imagination après. Non, non. L'imagination reprend après quand l'intelligence est purifiée. Et alors nous aurons l'imagination de notre monde moderne, vous voyez, parce que l'imagination, ça, elle n'est pas la même que celle du Moyen-Âge, c'est sûr. C'est très différent que le Moyen-Âge. Notre imagination n'est pas la même que celle de Saint-Thomas. Ce serait intéressant, hein, faire une étude sur l'imagination de Saint-Thomas. Ce serait facile à faire. Chaque fois qu'il donne un exemple. Alors là, vous verriez que votre catéchèse avec l'exemple de Saint-Thomas, ça va bien. Tandis que les principes qu'il donne, ça peut tenir, et ça tient la route. Tandis que l'imagination de Saint-Thomas est différente, ça c'est sûr. On ne pourrait pas employer tout à fait la même imagination, parce que nous avons une imagination du XXe siècle, de la fin du XXe siècle. Pourquoi donc, dans la communauté Saint-Jean, nous prenons Saint-Thomas? Parce que c'est l'Église qui nous le demande. Oui, et le pape actuel le redemande. Et le pape précédent le demandait, et le pape avant aussi, et tous les papes l'ont demandé, et le concile l'a rappelé encore. Mais on n'est pas fidèle au concile, on n'est pas fidèle à l'enseignement des papes, et alors on se met à prendre la nourriture en dehors. Et en faisant ça, on perd du temps, parce que c'est perdre du temps, c'est un manque de docilité foncière. Alors on perd du temps et on s'apercevra trop tard, parce que les années de formation, hein, ça ne se reprend pas, vous savez. Ça ne se reprend pas. Vous avez quelques années ici qui sont des années qui vous sont données pour vous former pour toute votre vie apostolique. Après, si vous n'êtes pas formé pendant ces années-là, si vous n'avez pas acquis l'habitus de théologien, vous ne ferez plus jamais de théologie. Ça, je vous le dis d'avance. Regardez la manière dont les prêtres aujourd'hui font de la théologie. Parce qu'ils n'ont pas acquis, pendant les années de formation, un certain habitus théologique. Si on a acquis l'habitus théologique, on y revient forcément. Ça ne peut pas être autrement. Ça devient une nécessité. Alors, dès qu'on peut, on le fait. Et on fera même peut-être plus qu'on ne pense, parce que ce sera une nécessité de se nourrir à un certain moment. Mais ça, il faut acquérir ça, ça fait partie d'une formation. Vous voyez, la formation, c'est acquérir des habitus. Hein, c'est acquérir des habitus. On acquiert des habitus de vertu et on acquiert des habitus intellectuels. Et il y a un habitus intellectuel qui est difficile à acquérir, mais qui pour nous est un devoir. C'est un devoir. C'est d'acquérir l'habitude de théologie. Et l'habitude de théologie, on l'acquiert quand on fréquente saint Thomas. Ça, c'est sûr. Lire du saint Thomas, c'est jamais perdre son temps. Mais il faut en lire le plus qu'on peut. Et ceux qui sont dans leur dernière année, alors aujourd'hui, hein, demandez à saint Thomas d'être les ouvriers de la 11e heure. Hein. C'est-à-dire que cette dernière année soit pour vous une année où vous avez un amour pour saint Thomas intense et vous vous y mettez à relire ou à lire ce que vous n'avez pas encore lu des traités de saint Thomas. Je crois, vous voyez, petite résolution pratique aujourd'hui, hein, pour ceux qui sont dans la dernière année. Il n'y en a pas tellement ici, n'est-ce pas, mais il y a ceux de Fribourg aussi, mais, et puis dans d'autres lieux aussi. Tous ceux qui sont dans la dernière année. Je crois qu'il faut demander ça à saint Thomas. Je n'insiste pas plus, mais c'est important de se le rappeler. Oui, c'est pas parce que je suis dominicain que je vous ai imposé saint Thomas. Parce qu'alors, en tant que dominicain, je vous aurais pu vous imposer Albert le Grand, après tout. Ce serait beaucoup plus original aujourd'hui. Ce serait mieux accepté. Toute la communauté Saint-Jean a comme auteur Albert le Grand. C'est du latin un peu plus difficile, c'est moins traduit. Alors, à cause de ça, on se rabat sur saint Thomas, n'est-ce pas ? Non, c'est pas ça, parce que Albert le Grand n'est pas considéré dans l'Église comme celui qui doit former, bien qu'il était le maître de saint Thomas. Saint Bonaventure, que je vénère et que j'aime, n'est pas considéré dans l'Église au même niveau que saint Thomas. Don Scott, non plus. Bellarmine non plus. Suarez non plus. Ça reste une petite, un petit hôtel portatif, n'est-ce pas ? Mais c'est pas considéré comme ce qui doit être la formation dans l'Église. Non. Être suarésien, très bien. On envoie un coup de chapeau et puis on passe, n'est-ce pas ? Tandis que être à l'école de Saint Thomas, c'est pour toute notre vie. Et je suis persuadé que le Saint-Père nous le demanderait encore aujourd'hui. Parce qu'il a compris que c'était nécessaire. Alors, d'une façon intelligente, hein, comme on dit, Saint Thomas n'est pas une borne, mais une lumière. Il faut bien comprendre, c'est un phare. Alors, il faut se mettre dans le bon sens pour bien comprendre combien Saint Thomas éclaire. Je voudrais ce soir, au-delà de la doctrine de Saint Thomas, comprendre l'âme de Saint Thomas. C'est important, vous savez, quand nous lisons beaucoup Saint Thomas et on pense pas assez à lui. Je crois que chaque fois que vous lisez Saint Thomas vous regarde. Ça, j'en suis sûr, moi. Et vous ne regardez jamais Saint Thomas. Combien de fois avez-vous regardé les yeux dans les yeux Saint Thomas en lisant Saint Thomas, vous le lisez, comment voulez-vous? Ça fait partie, vous savez, de la gloire accidentelle, ça. Ça fait partie de la gloire accidentelle. Tous ceux qui lisent Saint Thomas s'occupe d'eux. Il y a un regard de Saint Thomas sur eux. Et nous oublions ça. Alors nous lisons Saint Thomas, oui, nous le lisons, et puis nous oublions de l'invoquer, nous oublions de le regarder. Et puis quand nous ne comprenons pas, de lui dire, mais comment avez-vous, parce qu'il vaut mieux que vous voyez, comment avez-vous compris cette chose-là? Comment vous avez, oui, parce que quand on a une auréole, on vous voit, n'est-ce pas? Avant, ça n'a pas d'importance. Mais pour quand on a une auréole, qu'on est saint, alors il vaut mieux. Alors, comment avez-vous compris ça? Comment? Et lui demander de temps en temps. Et je vous affirme que si on fait ça, Saint Thomas éclaire. Beaucoup mieux que tous les autres. Hein? Parce que les autres, c'est quand même des commentateurs de Saint Thomas. Alors on est mieux allé à la source. Saint Jean est mieux allé à la source. À la source de Saint Thomas, c'est Saint Jean. Il y a la source de philosophique de Saint Thomas, c'est Aristote. Et la source théologique, c'est Saint Thomas. Alors on va à la source pour saisir ce que Saint Thomas veut dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de Saint Thomas? Il faut se poser la question. Vous savez, quand Saint Thomas commente le Notre Père qui est aux cieux, Saint Thomas dit toujours, qui est au plus intime de notre cœur. Premier sens, notre Père qui est aux cieux, qui est au plus intime de notre cœur. Ça en dit long, vous savez ça. Et quand Saint Thomas commente que l'Esprit Saint au plus intime de notre cœur nous fait dire Père, Saint Thomas commente en disant que c'est la plus grande expérience mystique de dire Père. C'est beau. Saint Thomas aurait pu donner des choses beaucoup plus compliquées, la plus grande expérience mystique. Hein. Il aurait pu dire, c'est atteindre le fond de notre âme, atteindre quelque chose qui est particulièrement difficile à comprendre, la fine pointe de l'esprit, et puis arriver comme ça, dire, non, non, quand on dit Père, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça admirable, parce que c'est là où on voit la simplicité de Saint Thomas. Saint Thomas ne complique jamais, parce qu'il revient à des expériences les plus profondes et les plus simples. Pour lui, ce qui est le plus élevé dans la vie mystique, c'est de dire Père. Pour un très grand théologien comme lui, hein, d'arriver à dire ça, ça pour moi c'est le signe qu'il vivait dans une simplicité merveilleuse avec le Père. Notre Père qui est aux cieux, au plus intime de notre cœur. Le ciel, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la présence du Père en nous. Et nous vivons in sinu patris. Quand il commente in sinu patris, hein, commentaire de Saint Thomas de Saint Jean, vous le savez par cœur. Hein. Alors ça va, ça fait partie du bien commun de la communauté Saint Jean. Alors, il y a déjà deux tomes, ça fait déjà pas mal à prendre par cœur. Hein. Ça fait, pour bien comprendre la manière dont Saint Thomas commente Saint Jean, in sinu patris. Vous savez, ce serait très beau de relever dans saint Thomas tout ce que saint Thomas dit du Père. Ce serait très très beau. On ferait un tout petit volume, œuvre commune de la communauté Saint-Jean. Qu'est-ce que saint Thomas dit du Père? Pour comprendre un peu ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de saint Thomas, son lien, sa filiation avec le Père. Quand il dit « in sinu patris », il dit ce qu'il y a de plus secret, de plus intime. Le Verbe, il est dans le sein du Père. Si le Verbe, il est dans le sein du Père, par le Verbe de Dieu, nous sommes nous aussi dans le sein du Père. Nous naissons à cette vie divine dans le sein du Père. « In sinu patris », nous naissons dans cette intimité profonde, cette intimité personnel qui fait que tout en nous est saisi et pris par le Père, attiré par le Père. Ah, c'est aussi très beau quand saint Thomas commente l'attraction du Père. C'est peut-être la chose que j'aime le plus, parce que je crois que c'est une des choses qui est le plus vécue cela, dans saint Thomas, l'attraction du Père. Personne n'est bon si ce n'est Dieu, si ce n'est le Père. Et le bien attire. Le bien attire. Le Père attire. Ce qu'il y a de plus propre au Père, c'est d'attirer. Et c'est parce qu'il attire que nous disons Abba Pater. C'est parce que le Père attire ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qu'il y a de plus vrai en nous. C'est parce que le Père est là, qui est une force profonde d'amour et qui veut se communiquer à nous, que nous sommes saisis par cette attraction du Père. Et je crois que nous devons demander cette expérience, voyez. Et saint Thomas l'a vécu, cette expérience, c'est bien évident. Il a vécu cette expérience de l'intimité la plus profonde avec le Père. Regardez, on le voit peut-être moins bien dans son traité de la Très Sainte Trinité. C'est un petit peu partout qu'on voit ça. Mais dans le traité de la Très Sainte Trinité, quand il parle du Père, on voit bien qu'il y a là quelque chose de tout à fait unique. Il est celui qui a vécu en fils bien-aimé du Père. Il a vécu le bien-aimé, l'agapétos, hein, le fils bien-aimé du Père, avec Jésus et en Jésus. Alors saint Thomas ne se raconte jamais. C'est ça qui est admirable. Saint Thomas ne dit pas, oui, j'ai eu cette expérience tel jour. Jamais une seule fois. La légende raconte, ça c'est Réginald. Alors Réginald, il pouvait dire des secrets que saint Thomas ne disait pas. Réginald, vous savez, il avait un privilège, Réginald, c'est qu'il savait lire l'écriture de saint Thomas. Parce que l'écriture de saint Thomas, c'était l'illisible. Personne ne savait lire l'écriture de saint Thomas. Parce que c'était toujours des secrets. Alors, et personne ne savait lire l'écriture. Il n'y avait que Réginald qui savait lire l'écriture de saint Thomas. C'est beau, Dieu, ça. Quand vous regardez du reste les manuscrits de saint Thomas, c'est extrêmement curieux. Les premiers manuscrits, hein, de saint Thomas, des commentaires des sentences. Surtout quand saint Thomas commente ce que c'est que les passions du Christ. Parce que c'est peut-être là où il y a eu le plus de ratures. Je ne suis pas spécialiste des manuscrits de saint Thomas, mais il y avait un père belge, le père Gils, au Solchoir, qui était très spécialisé des manuscrits de saint Thomas. C'était, je crois, celui qui connaissait le mieux le manuscrit de saint Thomas. Alors, de temps en temps, j'allais passer une récréation avec lui, mais qui me montrait tous les manuscrits de saint Thomas, les derniers qu'il avait découverts. C'est toujours très intéressant, c'est vrai, c'est intéressant de voir. Et alors, il a fait cette petite remarque qui m'a beaucoup intéressé, que saint Thomas commentant les sentences, puisque après saint Thomas a dicté, sans doute, il n'y a plus de manuscrit de saint Thomas. Ça devait aller trop vite, alors il devait avoir, comme on dit, les gens ont dit, il avait trois mains. Alors il dictait trois choses en même temps. Ça devait être assez ahurissant. On dit ça, j'en sais rien. Enfin, il n'y avait pas de magnétophone de ce temps-là. Alors, si saint Thomas aurait eu trois magnétophones, vous voyez, pour essayer de dicter ce qu'il devait dicter. Et alors, saint Thomas, au début, parce qu'il écrivait au début, de lui-même, de sa main, mais il écrit tellement vite, ça se voit, que quand il rature, c'est une espèce de chose, une bonne gifle. On voit très bien, c'est dit avec force et avec véhémence. Et alors, un des manuscrits qu'il a le plus raturé, c'est lorsque saint Thomas parle des passions du Christ. C'est très curieux. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Parce que je crois que saint Thomas est le grand théologien des passions. Je crois. C'est lui qui a introduit en premier lieu, en pleine théologie, les passions. Vous voyez, comme anthropologie. Alors, il faudrait revendiquer saint Thomas, le premier anthropologue, quoi, aujourd'hui. C'est bien ça. Parce que c'est lui qui a introduit en théologie les passions. Avant, il ne faut pas l'oublier, l'influence stoïcienne faisait que les passions, on n'en parle pas. C'est trop dangereux de parler des passions. On ne parlait pas des passions. Sous l'influence stoïcienne, les passions étaient mauvaises. Je crois que saint Thomas est le premier qui, grâce à ce retour à Aristote, réintroduit en théologie les passions. Les néoplatoniciens ne parlaient pas des passions, ça ne les intéressait pas, on recevait tout d'en haut. Tandis que pour saint Thomas et pour Aristote, c'est très intéressant les passions, puisqu'on est dans un état de réceptivité vis-à-vis des choses. Quand vous êtes en colère, vous ne recevez plus rien du tout. Donc vous devenez bête, puisque vous n'êtes plus en contact avec la réalité. Dès que vous êtes en colère, ou si vous êtes trop pris par la passion, vous engluez. Et donc il n'y a plus aucune objectivité. On comprend que c'est important les passions et l'éducation des passions quand il s'agit d'un philosophe qui comprend qu'on reçoit tout de la réalité sensible. Tout passe par les sens. Tout passe par les sens. Et si tout passe par les sens, les passions sont l'intermédiaire entre les sens et le point de vue de l'intelligence. Les passions liées à l'imaginaire sont l'intermédiaire. Et donc c'est capital ça, parce que si cet intermédiaire est trop passionné, il n'y a plus rien. Si cet intermédiaire est dans un état de non-passion, il n'y a plus rien. L'insensibilité, c'est le pire. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, l'insensibilité. C'est le pire des défauts. Et c'est vrai, parce que plus rien ne passe. Mais évidemment, la sensibilité et la sensibilité passionnelle, attention, parce qu'alors, à ce moment-là, c'est un phénomène ou d'inhibition, si on est dans un état de crainte, de peur. Vous verrez ça quand vous commencerez à prêcher, combien l'inhibition à la peur de l'auditoire est une chose terrible. C'est vrai, ça, c'est pas commode du tout. Ouais. Et pourtant, c'est très bon. Parce que ça excite l'imaginaire, ça excite la sensibilité. Celui qui n'a jamais eu le trac, il n'a aucun contact avec son auditoire. Saint Thomas sait très bien ça. Il voit l'importance des passions. Et il a étudié les passions pour mieux comprendre que Jésus était homme. Et parfaitement homme. C'est très important pour nous. Vous voyez, c'est pour ça que je disais le Père et puis l'humanité sainte du Christ. Je crois que ce sont les deux pôles de saint Thomas. C'est le Père et l'humanité sainte du Christ. C'est les deux choses qu'il a saisies. Le mystère de Dieu, on sait bien, c'est ce petit, le petit jeune saint Thomas, vous savez bien, qui cherche qu'est-ce que c'est que Dieu. Il a interrogé ça. Il voulait savoir qu'est-ce que c'est que Dieu. Et c'est pour ça qu'il si vite, il a été à l'école de la vie monastique et il a eu cette formation monastique. Il ne faut pas l'oublier, Une formation monastique la plus forte qu'on pouvait avoir de ce temps-là. Et par son désir de découvrir Dieu, par son désir de savoir ce que c'était que Dieu. Et alors en même temps, ce sens très très fort de l'homme. Et le Père, l'humanité sainte du Christ. Je crois que ce sont les deux pôles de saint Thomas. C'est très beau parce que ça fait comprendre l'absolu de la contemplation. Une contemplation nous fait tendre vers le Père, nous fait attirer vers le Père. Et en même temps, une contemplation qui reste une contemplation chrétienne, elle ne quitte pas l'humanité sainte du Christ. Et elle ne peut pas quitter l'humanité sainte du Christ. C'est en étant lié au cœur blessé de l'agneau qu'on est le plus proche du Père. Puisque avec Jésus, on est in sinu patris. On est dans le sein du Père. C'est par l'humanité sainte du Christ qu'on est dans le sein du Père. Et ce qui explique, voyez, pourquoi saint Thomas a eu un tel amour de l'Eucharistie. Alors ça, on ne peut pas le nier. Il y avait cet amour extraordinaire de l'Eucharistie. le Père, l'humanité sainte du Christ, l'Eucharistie. Ça nous fait saisir des choses très simples, mais qui doivent être, au fond, je crois, ce qu'il y a de plus profond en nous. Ça doit être ça. On doit avoir cette soif de contemplation et d'être attiré par le Père. Vraiment attiré par le Père. Que le Père, sur notre cœur, joue ce rôle, voyez, de l'aimant qui attire le fer, qui attire notre âme. Être tout le temps converti vers le Père, à travers l'humanité sainte du Christ et à travers l'Eucharistie. C'est très joannique, ça. Et ce qui est encore plus joannique que saint Thomas saisit, parce que nous essayons de saisir l'âme de saint Thomas, voyez, au plan spirituel, c'est le sens du sacerdoce du Christ. Vous le savez bien. Par rapport à tous ses contemporains, ça n'a pas été mis très en lumière, ça. Par rapport à tous ses contemporains, saint Thomas a mis au centre de toute sa christologie le mystère du sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ est la médiation du Christ. Et ça reste quelque chose de mystérieux, comment saint Thomas a fait deux questions différentes qui sont très belles, très simples, mais très importantes pour nous à saisir. Le sacerdoce du Christ et la médiation. Autrement dit, saint Thomas a saisi, à partir de l'Épître aux Hébreux et à partir de l'Évangile de saint Jean, comment le mystère du sacerdoce du Christ était ce qui nous permettait de mieux comprendre sa médiation d'amour. Combien il était l'envoyé du Père. Et la grande vision joannique. Jésus, c'est l'envoyé du Père. Il l'a envoyé du Père parce qu'il est le prêtre par excellence. Il est le prêtre par excellence, celui qui a lié les hommes avec Dieu, qui a lié Dieu aux hommes. C'est vrai, c'est dans son cœur que ce lien s'est fait, dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Christ, fils bien-aimé du Père et fils de Marie. Et c'est l'œuvre sacerdotale du Christ qui est la chose la plus grande que le Christ ait fait. La chose la plus grande que le Christ ait fait, ce n'est pas l'enseignement. Non, ce n'est pas enseigné. C'est son œuvre sacerdotale. Et l'œuvre sacerdotale du Christ réclame la contemplation. C'est un sacerdoce contemplatif. C'est un sacerdoce d'amour. Donc il est un sacerdoce contemplatif et un sacerdoce de miséricorde. Les deux sont liés et intimement liés. C'est le sacerdoce qui comprend la misère des hommes et qui est donc l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et le sacerdoce qui comprend les secrets du Père. Il est in sinu patris, il est dans le sein du Père. Et donc c'est le sacerdoce par excellence du Fils bien-aimé. C'est cela qui caractérise toute la grande vision de saint Thomas sur Jésus, sur le Christ, qui reste au cœur de toute sa théologie. Alors quand on dit que saint Thomas, parce qu'on l'a dit ces choses-là, on a dit que saint Thomas mettait en troisième lieu le Christ, vous voyez donc, qui n'était pas du tout celui qui mettait au cœur le mystère du Christ. C'est très faux, c'est tout simplement parce que pour saint Thomas, il faut aller le plus loin possible dans la connaissance du Christ, et donc pour connaître le mieux possible le Christ, il faut connaître Dieu, il faut connaître l'homme. On ne cesse de mieux connaître Dieu et de mieux connaître l'homme pour connaître le Christ. C'est très beau, du reste, ça, parce que c'est ça qui doit nous animer. Chaque petite connaissance que vous avez davantage de l'homme, et c'est là où la philosophie est importante, chaque petite connaissance que vous avez plus de l'homme, ça vous permet de mieux connaître le Christ. C'est pour ça qu'un saint Thomas s'acharne tellement à connaître les passions, pour mieux connaître l'homme, et alors à ce moment-là, mieux connaître le Christ. Il y a cet ordre étonnant, je crois, qui nous fait découvrir l'âme de saint Thomas, âme contemplative, et le seul signe de ça pour moi, c'est qu'il ne parle jamais de lui. Ça, c'est le signe du contemplatif. Quelqu'un qui parle de soi tout le temps, il a peut-être beaucoup de dévotion, mais il n'a pas beaucoup de contemplation. Parce que celui qui est contemplatif, il est perdu dans celui qu'il contemple. Et c'est le signe le plus extraordinaire pour moi, parce que je crois qu'il y a très peu qui ont été d'une telle objectivité. C'est-à-dire qui toujours disparu de devant. Je vous disais tout à l'heure, seules les confidences de Réginald, cette confidence qu'on a dans les légendes, alors les historiens critiques d'aujourd'hui diront, c'est rien, c'est pas d'importance, c'est une légende que je crois très vraie. Saint Thomas, à la fin de sa vie, après un moment d'oraison, de grande intimité avec le Christ, a envie de brûler toute son œuvre. Ça aurait simplifié pas mal de choses, hein. A envie de brûler toute son œuvre, parce qu'il considère que tout ça, c'est de la paille. Et je crois que c'est très important, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on le rejette, alors je crois que c'est vrai. Il a dit ça à Réginald. Tout ça, c'est de la paille. Ça, ça nous fait comprendre, vous voyez, le saint. L'œuvre qu'il a faite, qui est uniquement pour Dieu et pour l'Église, ce n'est rien. On retrouve, si vous voulez, le cri de soif du Christ. C'est toujours très beau de retrouver le cri de soif. De la croix, dit j'ai soif. Et les hommes ne comprennent pas, puisqu'ils lui présentent du vinaigre. Sauf Marie qui comprend, sauf Jean. J'ai soif. Toute l'œuvre de la croix n'est rien à côté de sa soif d'aimer. Alors je crois que c'est bien cela pour Thomas. Toute l'œuvre qu'il a faite, et il a travaillé. Il a travaillé, quand vous regardez tout ce que saint Thomas a écrit, le peu de temps qu'il a vécu sur la terre. Tout ça n'est rien. C'est de la paille. Qu'une seule chose qui compte, c'est d'aimer. C'est ça que ça veut dire. C'est le primat absolu de l'amour. Que saint Thomas nous dit dans son œuvre, le primat absolu de l'amour, c'est que tout ça n'est rien. Tout ce qu'il a écrit, la théologie n'est rien à côté d'un acte d'amour. C'est vrai. Mais nous devons être serviteurs et non pas des enfants gâtés. Et alors pour être serviteurs, nous devons accomplir le devoir qui nous est demandé. Si nous avons tant soit peu un mépris vis-à-vis du devoir qui nous est demandé, si nous avons tant soit peu un mépris du serviteur, nous devenons des enfants gâtés. Dans les enfants gâtés, il n'y a plus l'amour, hein, il n'y a plus de velléités, il n'y a plus rien d'amour. Je crois que saint Thomas avait horreur des velléités. Ça, je crois. Et il peut dire que tout ce qu'il a fait n'est rien. Parce que justement, c'est un homme qui a travaillé durement, qui a travaillé en contemplatif. Et c'est pour ça que toute son œuvre n'est rien à côté de cet amour qui l'unit au Christ, qui le lie au cœur de Jésus. Il y a quelque chose, vous savez bien, que j'aime beaucoup dans saint Thomas, au-dessus de tout. C'est quand saint Thomas parle de saint Jean. Alors pour nous, c'est très important. Le regard de saint Thomas sur saint Jean, c'est dans son commentaire sur saint Jean. C'est un passage très très beau. Saint Thomas sait très bien qu'on ne peut pas comparer la sainteté de Pierre et de Jean. Il le sait, il suffit de lire dans la Somme. Chacun est aimé d'un amour unique. Est-ce que c'est Pierre qui est aimé plus? Est-ce que c'est Jean qui est aimé plus? Vous savez, les pères de l'Église se sont bataillés là-dedans. C'est merveilleux, quand ils auront rencontré au ciel Pierre et Jean, je ne sais pas comment Pierre les regardera, je ne sais pas comment Jean les regardera. Oh, tu as parlé de moi comme ça, attention, hein. Attention, parce que tu n'as pas compris. C'est vrai, la sainteté de Pierre est une sainteté unique, et la sainteté de Jean est une sainteté unique. Or, comme nous sommes dans l'ordre de la qualité, on ne peut pas comparer, c'est impossible. Et saint Thomas le sait. Alors saint Thomas rapporte tout ce que les pères de l'Église disent, c'est très beau, du reste, c'est très très beau. À Pierre, il a confié l'Église, à Jean, il a donné Marie. Alors évidemment, mettez dans une balance l'Église, puis dans l'autre Marie. Puis là, vous voyez Pierre et Jean qui regardent. C'est vrai, ça, c'est extraordinaire de voir cet amour extraordinaire de Jésus pour Pierre. Alors il le dit à Pierre, à Jean. C'est très curieux, hein, quand il confie l'Église à Pierre, il y a des témoins. Quand il donne Marie à Jean, il n'y a pas de témoins. C'est secret. C'est un grand secret. Tandis que devant Pierre, c'est après la résurrection du reste, hein, c'est devant tout le monde. C'est quand le mystère de la gloire éclate, alors il montre à Pierre. Fais paître mes brebis. Et à Jean, voilà ta mère. Vous voyez les deux commandements du Christ, hein, pour comprendre la sainteté de Jean et la sainteté de Pierre. Fais paître mes brebis. Tandis que de l'autre côté, voilà ta mère. Eh bien, saint Thomas, quand il se trouve devant ce problème, il pourrait très bien dire tout simplement la conclusion de la théologie scientifique. Eh bien oui, on ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Deux saintetés différentes, l'une plus contemplative, l'autre plus apostolique. Il pourrait dire ça. Eh bien, saint Thomas, cependant, nous dit, il nous donne des raisons pourquoi Jésus aime plus Jean. Alors, je crois que là, vous voyez, on prend saint Thomas en flagrant délit. C'est extraordinaire. On prend saint Thomas qui, au fond, nous fait comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de la théologie scientifique. Qu'il y a cette découverte des secrets du cœur de Jésus. C'est au-dessus de la théologie scientifique, ça. Les secrets, ça ne peut pas se dire en théologie scientifique. Tandis qu'en théologie mystique, on dit les secrets. C'est pour ça que saint Thomas dit qu'il y a trois espèces de prédications, vous savez bien. Il ferait bien de le rappeler aujourd'hui. Trois aspects de la prédication. Une prédication pour convertir les infidèles. La catéchèse. Elle est bien située. Convertir les infidèles. La prédication au bon peuple de Dieu, tous ceux qui sont curés. Alors, ils rappellent les choses essentielles. Ils doivent rappeler à travers tout, les diverses années les choses essentielles. Et puis, la prédication aux âmes consacrées. À ceux qui sont totalement donnés au Seigneur. Alors on donne les secrets. Ça, c'est aussi quelque chose de très vécu. Normalement, la prédication aux contemplatives était réservée aux évêques, qui devaient donner les secrets. Et comme les évêques étaient pris de ce temps-là par l'administration, aujourd'hui ils sont pris par les commissions, mais ça revient au même, tu vois. Alors, il faut qu'il y en ait d'autres qui prêchent les secrets. Et qui prêchent les secrets aux âmes consacrées. Parce que c'est ça qui doit être en premier lieu. Pour que l'Église vive toujours de cette espèce d'appel. Et alors, je crois que saint Thomas, là, comprend les secrets de Jésus. Le regard de Jésus sur Jean. Il nous donne trois raisons. Trois raisons. Jésus aime plus Jean que Pierre. Autant qu'on peut le dire, hein, sans diminuer l'amour de Jésus pour Pierre. Mais il y a quand même une petite préférence. Cette préférence, première raison de cette préférence, elle est admirable. À cause de la perspicacité de l'intelligence de Jean. Et saint Thomas ajoute, un maître aime toujours plus des disciples intelligents. C'est très joli ça. Oui, que saint Thomas là livre le secret de son cœur. Il a voulu être intelligent pour le Christ. Mais intelligent, il dit la perspicacité de l'intelligence. Hein. Il ne dit pas l'intelligence tout court. Il ne dit pas la raison. Il y a la raison. Il y a l'intelligence et il y a la perspicacité de l'intelligence. Hein. Alors ça, c'est une super intelligence. Hein. C'est pas seulement l'intelligence métaphysique. C'est une super intelligence. La perspicacité de l'intelligence. La perspicacité à l'égard de Jésus. On est perspicace à l'égard d'une personne quand on l'aime. Oui, c'est cette intelligence totalement au service de l'amour et qui permet de découvrir des choses qu'on ne peut pas analyser. C'est la perspicacité, c'est quelque chose de très particulier, ça. On saisit ce qu'il y a de plus profond dans une personne. La perspicacité à l'égard du Christ. Quand vous lisez l'Évangile, vous découvrez la perspicacité du cœur de Jésus, de son intelligence, de son âme. C'est pour ça que Jésus aime plus Jean. Au fond, c'est le contemplatif. C'est le vol de l'aigle. Le regard de l'aigle, c'est un regard de perspicacité. C'est pour ça que Jésus aime plus Jean. À cause de ce regard pénétrant, qui va le plus loin possible. C'est ce que toute la tradition a mis, hein, quand on met Jean l'aigle. C'est bien ce point de vue-là. C'est ce regard pénétrant qui va le plus loin possible. Saint Thomas veut aller toujours le plus loin possible, parce que le propre de l'intelligence, ce n'est pas l'équilibre. C'est ça qu'on a de la peine à comprendre. Hein. Le propre de l'intelligence, c'est d'aller le plus loin possible, pour pénétrer toujours plus avant. Alors c'est merveilleux de voir que Saint Thomas reconnaît dans Jean, je crois, ce qui a été le plus grand désir de toute sa vie. Je crois que saint Thomas a voulu être intelligent pour le Christ. Ça, c'est très beau. Oui, mais intelligent, perspicacité, hein, comprenez bien. Même si vous n'êtes pas très fort en métaphysique, vous pouvez être perspicace pour le Christ. Vous n'êtes pas obligé de passer par la métaphysique. Hein. La perspicacité, si on passe par la métaphysique, très bien. Mais il y en a qui sont dans la métaphysique et demeurent dans la métaphysique et qui ne sont jamais perspicaces. Alors il reste dans une métaphysique logique, ça ne va pas. Une métaphysique aboutit à la personne. Hein, et une métaphysique aboutit à la personne pour qu'on ait la perspicacité à l'égard de la personne de Jésus, si on est chrétien. C'est ça la chose merveilleuse. Avoir cette attention du cœur et de l'intelligence à l'égard de Jésus pour saisir ce qu'il y a de plus grand, de meilleur, de plus noble, le plus merveilleux dans le Christ. Ne jamais diminuer le mystère de Jésus. Celui qui diminue le mystère du Christ, c'est juste l'inverse de la perspicacité. Ah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On diminue le mystère du Christ parce qu'on le met à la dimension des hommes. Je crois que saint Thomas entrerait dans des saintes colères devant ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il faut que nous comprenions que nous devons prendre cela de saint Thomas, la perspicacité de l'intelligence à l'égard de Jésus, ce regard contemplatif. La seconde raison, c'est classique. La première n'est pas classique, c'est pour ça que c'est la première qui trahit ce qu'est la sainteté pour saint Thomas. La seconde raison, c'est la pureté du cœur. Alors là, nous comprenons très bien. C'est la pureté du cœur de Jean. La troisième raison, c'est la jeunesse. Ah, ça, c'est beau. Vous allez dire, le seul inconvénient, c'est que ça se perd. C'est vrai. On reste le plus jeune du noviciat pendant un certain temps, et là, on est le plus aimé, parce qu'on est le plus jeune, n'est-ce pas ? Les plus jeunes, parce que quand on a un mois de différence, deux mois de différence, trois mois de différence, c'est à peu près la même sauce, n'est-ce pas, de jeunesse. La jeunesse. Et saint Thomas ajoute, parce qu'à l'égard des jeunes, on peut manifester davantage des signes d'amitié. C'est aussi très beau, ça. On peut manifester davantage les signes d'amitié. C'est vrai, sauf à l'égard des grands-pères gaga, alors à ce moment-là, on peut les caresser, leur dire bon. Autrement, c'est vrai vis-à-vis d'un homme mûr. Non, on ne voit pas Jésus manifestant des signes d'amitié à l'égard de Pierre. À l'égard de Jean, oui, il reposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était tout proche de lui. Alors, voyez, c'est curieux, hein, c'est trois. J'aime beaucoup ça. Je crois qu'on doit le creuser. Parce que ça nous fait découvrir l'âme de saint Thomas. dans ce qu'elle a de plus profond vis-à-vis du Christ. Parce qu'il projette sur Jean ce qu'il garde dans son cœur. Et qu'il ne peut pas dire. Puisqu'il ne parle jamais de lui. Il parle de Jean. Et en parlant de Jean, il est le théologien de Jean. Comme Jean est le théologien du Christ, Thomas d'Aquin est le théologien de Jean. Et alors il nous montre ces trois aspects. Et vous découvrez, hein, la foi, une foi contemplative. La foi contemplative, c'est la perspicacité de l'intelligence. Il faut avoir une foi contemplative. Une foi contemplative, c'est mettre toute notre intelligence au service, justement, de l'amour. La pureté du cœur, c'est la charité. Cette fidélité dans l'amour. Puisque c'est ça, la pureté du cœur, c'est la fidélité dans l'amour. La pureté du cœur, c'est la ferveur dans l'amour. Vous savez bien comment saint Thomas définit la ferveur, hein, je vous l'ai déjà dit. Il ne faut jamais l'oublier. C'est l'eau qui bout. Alors, ça fait soulever le couvercle de la casserole. L'eau qui bout. Ça fait soulever, c'est évident, et ça s'échappe. Ça, c'est la ferveur. La ferveur, c'est lorsque, justement, l'amour est tellement grand qu'il déborde. Qu'il déborde. C'est plus un amour contenu. C'est l'amour qui a son propre rythme à lui. Bien ça, c'est bien ça la pureté du cœur. Notre cœur est pur dans la mesure où il est fervent. Notre cœur est pur dans la mesure où il est fidèle. Autrement, non, il est contenu, il n'est plus du tout pur. C'est tout à fait autre chose. Et puis le troisième, c'est l'espérance, hein, la jeunesse. Cette jeunesse éternelle, cette jeunesse que nous devons toujours avoir, cette jeunesse qui fait que nous savons que notre vie théologale, notre vie d'intimité avec Jésus est au-delà du temps. Alors je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous. Vous voyez, si on voulait définir ce que doit être notre spiritualité, si j'ose dire, parce que j'aime pas beaucoup dire ça, quelle doit être notre vie théologale, moi je crois que saint Thomas nous l'a dit là. Si nous voulons être vraiment disciples de Jean, et nous aurions là vraiment les aspects essentiels de ce que nous devons vivre. Perspicacité de l'intelligence. Encore une fois, hein, quand je dis perspicacité de l'intelligence, je n'identifie pas ça du tout à la métaphysique. Parce qu'alors, en ce moment-là, on dirait, oh, pour saint Jean, il n'y a que les métaphysiciens, les autres, hein. Non, non, croyez bien. Il y a diverses manières d'être aimé par son maître. La perspicacité, ce n'est pas l'intelligence métaphysique seulement. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence qui pénètre plus avant dans ce qu'est les personnes. C'est vrai, je crois que saint Jean doit être pour le Christ aujourd'hui, la communauté de saint Jean, doit être pour le Christ aujourd'hui, ce qui essaie d'avoir cette perspicacité de l'intelligence pour le Christ. Une connaissance de Jésus, du cœur de Jésus, de l'intelligence de Jésus, de la sensibilité de Jésus. Avoir la pureté du cœur, sûrement une grande ferveur, une grande fidélité. Cette grande pureté du cœur qui nous est demandée dans un monde tellement pollué. Et puis la jeunesse, pas seulement d'âge, hein. Ça, celle-là, c'est trop facile. Mais la jeunesse plus profonde, la jeunesse de l'espérance, la jeunesse de l'espérance eschatologique, la jeunesse de cette espérance divine qui fait que nous sommes pauvres, mais pour aimer, nous n'avons rien pour aimer, pour être plus entièrement suspendu, dépendant directement du Christ. C'est la vraie pauvreté, ça. C'est la pauvreté du cœur, c'est la pauvreté que nous devons avoir, que nous devons demander à saint Jean. Vous voyez, je crois que si nous prenons cela, et que nous demandons à saint Thomas de nous le faire comprendre, nous avons vraiment les trois grandes orientations divines qui nous sont données. Du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.